En ce premier jour de l'année, nous entendons cette merveilleuse lecture du livre des Nombres, où Dieu nous bénit. C'est cette fameuse bénédiction des prêtres de l'Ancien Testament, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Trois bénédictions successives, comme pour nous signifier la solennité de cette prière de bénédiction, qui consiste finalement à dire du bien et à souhaiter que ce bien se réalise grâce à l'action du Seigneur. Dire du bien. Dieu ne peut que vouloir du bien pour chacun d'entre nous et pour notre monde d'aujourd'hui. Et nous savons d'ailleurs que la parole de Dieu, elle est efficace. Dans les premiers versets du livre de la Genèse, on nous dit « Dieu dit et cela fut ». Or si aujourd'hui Dieu nous souhaite du bien, c'est que déjà il bénit chacune de nos vies, chacune de nos existences. Mais peut-être que c'est nous qui avons du mal à recevoir sa bénédiction. Prenons l'image du soleil, nous comparons souvent Dieu à un soleil. Le soleil brille, mais si nous restons à l'ombre, nous ne pourrons pas recevoir la lumière du soleil et les rayons du soleil ne pourront pas nous réchauffer. Dieu, en ce premier jour de l'année, veut bénir chacun d'entre nous. Il veut bénir aussi notre humanité, il veut bénir notre monde. Accueillons véritablement sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Peut-être avez-vous remarqué que juste avant ces paroles, l'auteur du livre des Nombres a dit ceci: voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Il s'adresse aux prêtres de l'ancienne alliance et en fait, il demande de bénir le peuple. Et en même temps, la formule est au singulier: que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire que cette bénédiction, oui, s'étend au monde entier et en même temps à chacun d'entre nous, car nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Et Dieu nous aime chacun d'entre nous, car il nous connaît chacun par notre prénom. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Au début de cette année, Dieu nous confie cette mission d'être témoins de sa lumière. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Si notre visage brille de la lumière de Dieu, nous pourrons transmettre cette bonne nouvelle dont nous voulons vivre jour après jour, dimanche après dimanche. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Dieu veut se faire proche de chacun d'entre nous. Il veut tourner vers nous son visage. Vous savez qu'aujourd'hui, nous fêtons aussi Sainte Marie, Mère de Dieu. Eh bien, peut-être que la Vierge Marie a vécu d'une manière toute particulière cette bénédiction de l'Ancien Testament. Que le Seigneur te bénisse et te garde, elle l'a dit dans son Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Et alors que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous cette proximité, la Vierge Marie, dans son Magnificat, dit « Que le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Il est venu vivre en elle, tout proche d'elle. » Oui, la Vierge Marie a accueilli cette bénédiction. Elle ne s'est pas dérobée. Elle n'est pas restée dans l'ombre. Si ce n'est l'ombre du Saint-Esprit qu'il a pris sous son ombre. Mais elle s'est mise véritablement sous la lumière de Dieu. Et Dieu a pu transformer son existence. Alors oui, ce matin, accueillons la bénédiction du Seigneur et contemplons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Il est beau, il est grand de pouvoir fêter la Vierge Marie comme Mère de Dieu le dernier jour de l'octave de Noël. C'est peut-être pour nous rappeler finalement que le mystère de la nativité du Verbe forme un seul mystère avec le mystère de la maternité divine, de la maternité de la Vierge Marie. Oui, en 431, c'était au concile d'Éphèse. Les pères du concile ont déclaré la Vierge Marie Théotokos, mère de Dieu. Je vais vous lire le texte officiel qui a déclaré la maternité divine de la Vierge Marie. Pourquoi Marie a été déclarée Théotokos, mère de Dieu? C'est quand même étonnant qu'une créature soit mère de Dieu. Comment cela est-ce possible? Eh bien, voilà ce que dit le Concile d'Éphèse. Marie est mère de Dieu, Théotokos, non que la nature du Verbe ou sa divinité ait reçu le début de son existence à partir d'elle, mais parce qu'a été engendré d'elle son saint corps, animé d'une âme raisonnable, corps auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase, la personne, et pour cette raison est dit avoir été engendré selon la chair. De manière plus simple, avec des mots d'aujourd'hui peut-être, cela veut nous dire quoi ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la Vierge Marie n'est pas la mère du Verbe, qui existait bien sûr avant elle, mais c'est d'elle qu'est né le corps de Jésus, la nature humaine. Et voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, alors que nous fêtons la Vierge Marie comme mère de Dieu, nous pouvons poser deux regards sur la Vierge Marie et sur chacune de nos vies. Car Marie est la première des sauvées, la femme parfaite, et elle est aussi pour nous un modèle. Nous pouvons poser un regard sur la fécondité de nos vies, car Marie est mère et elle a engendré. Et nous pouvons poser un regard sur le corps humain, car c'est parce qu'elle a donné au Verbe éternel son corps humain que Marie a été déclarée Théotokos, mère de Dieu. Regardons d'abord ce mystère de la fécondité. La vie de Marie a été féconde d'une manière extraordinaire, d'abord par son fiat, le jour de l'Annonciation. « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et vous savez que saint Augustin dit que Marie a d'abord engendré le Verbe de Dieu en elle par son fiat, avant de l'avoir engendré dans sa chair. Marie nous invite à contempler ce mystère de la fécondité. Elle nous invite aussi aujourd'hui à choisir la vie. Et dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas simple, car nous avons parfois l'impression que l'avenir est bouché. Nous voyons souvent ce qui ne va pas dans notre existence. Nous avons parfois l'impression d'être découragés. Et même parfois, certains se disent « à quoi bon vivre ?» Or, chacune de nos existences peut porter du fruit, et un fruit jusque dans la vie éternelle. Alors nous sommes invités aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, à prendre soin de notre humanité et de l'humanité tout entière pour regarder avec enthousiasme cette vie qui nous est offerte jour après jour. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les prophètes le disent aussi au peuple de Jérusalem, « Tu as deux choix, la mort ou la vie, choisis la vie pour que tu vives. » Eh bien, choisissons la vie, véritablement pour porter du fruit. Et nous pouvons peut-être nous poser la question ce matin, en ce premier jour de l'année. Qu'est-ce qui va pouvoir porter du fruit dans ma vie au cours de cette année? Qu'est-ce que je vais mettre en place ou continuer à cultiver dans mon existence pour que ma vie soit féconde? Notre père Abbé Maurice, fondateur de notre congrégation, aimait bien faire la différence entre la fécondité et l'efficacité. Ce n'est pas parce qu'une vie n'est pas absolument efficace qu'elle n'est pas féconde, mais une vie offerte, une vie donnée, une vie humble et pauvre, elle porte énormément de fruits, elle est véritablement féconde. Attention de ne pas confondre fécondité et efficacité. Demandons la grâce aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, d'avoir une année qui soit féconde. Et ce n'est pas nous qui rendrons féconde notre vie, c'est le Seigneur qui la rendra féconde. Il faut simplement, comme la Vierge Marie, accueillir la grâce de Dieu en nous. Comme elle, nous pouvons être des saints pour que notre vie soit féconde. Et essayons de regarder justement cette année avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Saint Augustin disait ceci, « Soyez saints, et les temps seront saints. Soyez bons, et les temps seront bons. Cela signifie quoi ? Cela signifie que si nous, nous commençons à accueillir l'amour de Dieu dans notre existence, eh bien le monde aussi changera. Plutôt que de nous plaindre sur ce qui ne va pas dans le monde, soyez saints, et les temps seront saints. Soyez bons, et les temps seront bons. Après, ce regard porté sur la fécondité de la Vierge Marie et sur la fécondité de notre existence, regardons maintenant, posons aussi un regard maintenant sur le corps humain. Car nous sommes, c'est vrai, la religion de l'incarnation. Et si nous honorons aujourd'hui la Vierge Marie comme Mère de Dieu, c'est comme nous dit le Concile d'Éphèse, parce qu'elle a donné ce corps humain au Verbe éternel. Cette nature divine, dans la personne divine du Verbe, il l'avait de toute éternité. Mais c'est la Vierge Marie qui a donné à Jésus son corps humain. Cela devait être extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus devait ressembler à sa mère d'une manière unique, puisque tout son corps humain, tout ce que Jésus a d'humain, venait de sa mère, et pas de son père, puisque son père, c'est l'Esprit Saint. Donc cela devait être extraordinaire de regarder la mère et le fils. Et ce corps est magnifique. Et nous avons un corps. Nous sommes la religion de l'incarnation. C'est ce mystère que nous avons célébré il y a 8 jours et que nous célébrons encore aujourd'hui puisque c'est le dernier jour de l'octave. Dieu, qui est pur esprit, qui existe de toute éternité, a pris un corps humain et s'est uni à notre chair pour sauver notre chair. Comme disait Tertullien, la chair est la charnière du salut. Et à travers cette union à notre chair mortelle, eh bien Dieu veut nous donner l'immortalité. Finalement, dans la religion catholique, le corps est très important, on en parle souvent. On parle du corps eucharistique. Dans quelques instants, ce pain va devenir le corps du Seigneur Jésus. Nous parlons du corps de l'Église. Et vous connaissez cette image chez saint Paul, dans le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, où il compare l'Église à un corps humain. Et tous les membres sont importants. Mais nous avons parfois eu aussi une vision très négative du corps, qui nous vient du néoplatonisme, des platoniciens, qui disaient que le corps, vous avez entendu sans doute cette expression, est le tombeau de l'âme. Et on disait le plus important, c'est le spirituel, c'est l'esprit. Non, il n'y a pas que l'esprit qui est important. Bien sûr qu'il faut tourner aussi notre regard vers le ciel et pas être uniquement dans cette société de consommation ou dans le matérialisme ambiant. Mais il est important aussi de retrouver cet équilibre, ce juste équilibre entre l'esprit et le corps. Et vous savez que celui qui nous a donné une vision extraordinaire du corps humain, c'est saint Jean-Paul II. Et après lui, Benoît XVI, pour qui nous pouvons prier. Vous avez entendu que ses funérailles auront lieu jeudi. Elles seront présidées par le pape François, sans doute place Saint-Pierre à Rome. Et lui aussi a repris tout l'enseignement du saint pape Jean-Paul II sur la théologie du corps. Pour nous rappeler peut-être 2 choses, et je terminerai par là. Que le corps dit la personne. C'est à travers notre corps que nous entrons en relation les uns avec les autres. Et c'est à travers le corps de la Vierge Marie, eh bien, que les gens qui l'ont rencontrée sont entrés en relation avec elle. Son corps était unique, était transmettait justement cette lumière du Seigneur. Et lorsque les gens la rencontraient, ils sentaient cette présence de Dieu en elle. Nous aussi, puissions-nous, à travers notre manière de nous tenir, de vivre avec notre corps aussi, dire quelque chose du divin. Car, encore une fois, nous sommes la religion de l'incarnation et il y a énormément de choses que nous pouvons dire aussi à travers notre corps. Voilà pourquoi nous honorons Marie aujourd'hui comme Mère de Dieu. La première chose, oui, c'est que le corps dit la personne. Et la deuxième chose, capitale aussi, que nous laissent saint Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est que le corps est fait pour la communion. Nous le comprenons particulièrement dans la vie conjugale pour les époux, mais nous le comprenons aussi à travers le mystère de l'incarnation, car Dieu a voulu s'unir à chaque être humain à travers ce corps qu'il a pris. Et aujourd'hui, il veut s'unir à chacun d'entre nous à travers le corps eucharistique. Et dans quelques instants, nous allons nous approcher de l'autel pour recevoir le corps du Seigneur. Il y aura cette grâce de contact, ce toucher du Verbe de Dieu qui va venir toucher notre humanité pour la guérir et pour la relever. Si nous voulons véritablement vivre dans cette communion avec le Seigneur, approchons-nous souvent du corps eucharistique. Communion avec beaucoup de respect, accueillons-le dans nos existences. Oui, aujourd'hui, demandons cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, d'accueillir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner aujourd'hui pour nous-mêmes et pour notre monde qui en a tant besoin. Et peut-être au début de cette année, demandons d'avoir un regard renouvelé sur ce mystère de la fécondité dans nos existences, dans chacune de nos vies, et sur ce mystère du corps humain que Jésus, le Verbe de Dieu, a voulu prendre pour s'unir à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cet amour que tu veux déverser dans le cœur de chacun d'entre nous. Donne-nous d'accueillir toutes les grâces dont tu veux nous combler au cours de cette année. Amen.